France Inter.
Je perdais tous mes moyens, je pensais que, genre, que je valais un peu rien, que j'étais là sans être là, que j'étais nulle à tout. Mais franchement, là je sais que le métier que je veux faire, c'est un truc vraiment qui vient de mon cœur et que je sais que j'ai envie de le faire. Du coup, je me donne les moyens et la force de le faire.
Chaque année en France, entre 80 000 et 100 000 jeunes quittent le système scolaire sans diplôme, sans formation, sans emploi. On les appelle les décrocheurs. Leurs profils sont divers, tout comme les raisons de leur décrochage. Phobie scolaire, harcèlement, troubles de l'apprentissage, problèmes familiaux ou sociaux. D'après les chiffres de l'Éducation nationale, le taux d'abandon scolaire était l'an dernier d'un peu moins de 8%. C'est 2 points de mieux qu'il y a 10 ans. Car le décrochage n'est pas une fatalité, ni forcément définitif. Des structures existent pour aider les décrocheurs à raccrocher. Elles peuvent être nationales, régionales ou associatives.
On n'a pas à s'interroger sur les profils de jeunes qui doivent être scolarisés, on a à s'interroger, c'est comment faire que nous répondions à ces jeunes. Il faut que l'école se détende un peu. Quand je dis l'école, l'école au sens noble du terme, quoi.
Ces jeunes décrocheurs sont par définition sous les radars. On les entend rarement. Interception leur donne la parole. Raccrocher les décrocheurs, c'est un reportage de Cécile Bidot. Elle nous emmène d'abord au micro-lycée d'Amiens, en Picardie. Dans cet établissement public, les enseignants prennent en charge les 16-25 ans dans des classes à effectifs très réduits, une quinzaine d'élèves en moyenne.
Interception, le magazine de reportage de la rédaction.
La porte est ouverte.
Bonjour.
Bonjour.
Donc Julie Maquet, directrice du micro-lycée, nous accueille.
Bonjour les filles. C'est le travail en philo.
Donc là, c'est une classe de terminale dont vous êtes professeur principal.
Oui.
Je remarque qu'il y en a certains qui sont arrivés en retard, etc. Ça pose pas de problème. C'est quelque chose qui est entre guillemets normal ici.
L'idée, c'est de toujours autoriser le retour à l'école. Si quand ils passent la porte, on leur dit voilà, va chercher ton billet de retard, eux, ils ont le sentiment que du coup, ils ne peuvent plus passer la porte de la classe. Donc ça les empêche en réalité de revenir. Et en même temps, à chaque fois, on leur rappelle est-ce que tu peux t'excuser de ton retard pour que l'élève il prenne conscience qu'il est en retard. Là, je ne l'ai pas fait parce que vous étiez là.
Vous avez été sympa parce qu'il y avait le micro.
C'est bon, Léni, tu sais ce qu'il faut faire ?
Je vais vous chercher les fiches.
Est-ce que vous autorisez les journalistes à écouter un petit morceau de votre cours ?
Oui.
Donc là, on est rentré dans un cours d'économie en classe de première.
Alors, je vais essayer de parler moins vulgairement maintenant. Donc, du coup, ça, c'est l'objectif. Vous avez ces exercices préparatoires et après, vous devez compléter un schéma sur les différentes formes de monopole. Et cette fois-ci, le schéma, c'est...
Alors là, la salle de classe, elle est disposée en îlot. Il y a plusieurs tables regroupées et les élèves sont tout autour, en cercle, et peuvent interagir facilement entre eux et avec le professeur. Et au mur, il y a plein de petits messages encourageants, du genre « c'est en se plantant que l'on peut pousser ». Ou alors, tout le monde sait quelque chose, personne ne sait tout.
Vous voulez m'interviewer ici ou pas ici ?
Bon, on va peut-être se mettre là pour ne pas les déconcentrer trop.
Oui, ils sont pas malheureux.
On vous vole votre prof. Hein.
Bossez.
Ben moi, c'est Brian Lacoste, je suis professeur en SES et je suis au micro-lycée ici depuis 1 an et demi.
SES, c'est sciences économiques et sociales.
Exactement. Souvent, la salle, elle est ouverte. J'ai plein de collègues qui rentrent dans ma classe comme dans un moulin, les élèves qui en sortent aussi. Demander à quelqu'un de tenir 8 heures en se tenant droit et assis, c'est un enfer pour beaucoup de personnes.
Et puis il y a aussi une question de nombre d'élèves.
Complètement. Ça change absolument tout sur la possibilité d'accompagnement. Après, ouais, l'équilibre est toujours là, c'est la bienveillance et en même temps, ouais, rappeler qu'il y a aussi une espèce de cadre, qu'il y a un bac à la fin.
Et cette bienveillance, c'est peut-être quelque chose qui n'est pas forcément partagé dans tous les établissements scolaires.
Tout à fait, exactement. C'est même ça qui est particulier, c'est que le micro-lycée règle par le lycée des problèmes que le lycée a souvent générés lui-même. Des cas d'humiliation par les enseignants, par d'autres élèves. On demande d'apporter les solutions alors qu'on en est aussi une partie de la cause, quoi. Voilà. Je vous ai fait une réponse de bon élève, hein, je crois. Hein.
Ok, tout le monde.
Je m'appelle Iris, j'ai 17 ans. Donc je suis arrivé au micro-lycée parce que j'ai pas réussi ma première. Phobie scolaire et décrochage et des crises de panique, du stress. Ça m'arrivait des fois de peur de carrément perdre l'usage de mes jambes. Je pouvais plus marcher. Et c'est à ce moment-là qu'avec l'aide d'amis et de... Enfin, qu'on m'a parlé du micro-lycée, que je me suis intéressé et que j'ai pu rebondir derrière. C'est tellement un rythme différent, une bienveillance qui est impossible, mais vraiment impossible dans les lycées normaux, quoi. Parce qu'en fait, il y a vraiment quelque chose de personnel. C'est-à-dire qu'on connaît les professeurs nous connaissent, mais pas seulement de notre point de vue scolaire, mais de notre point de vue personnel. Et il y a une vraie proximité qui se crée, qui fait que... Il y a quelque chose de simple et de fluide qui fait que tout va mieux. Il y a beaucoup d'écoute. On dit quelque chose, on se sent... Quelqu'un nous entend en face.
Je m'appelle Julie Maquet, je suis enseignante coordinatrice du micro-lycée d'Amiens. Je travaille ici depuis 7 ans et j'assure la coordination depuis 2 ans. Alors le profil depuis 7 ans a largement changé. Avant la crise sanitaire, on avait des jeunes qui étaient assez âgés, qui, pour une raison X ou Y, en fait, se fâchaient avec l'école. Aujourd'hui, on a des élèves qui sont plus jeunes, qui expliquent le décrochage scolaire très souvent par un problème en matière de santé mentale. On a 80% des jeunes ici qui ont un suivi psychiatrique et psychologique. Et 80%, j'insiste, c'est un suivi psychiatrique, c'est-à-dire un suivi médical.
Il faut du temps pour les ramener vers l'école.
Le temps ici, il est autre. Les jeunes qui nous arrivent, ils confondent parfois le jour et la nuit. Les horaires scolaires, c'est très difficile. Donc il faut prendre le temps de reconstruire les choses.
Vous avez quelques chiffres sur la proportion d'élèves qui obtiennent le bac au micro-lycée ?
Oui, donc sur l'année dernière, on a 80% des jeunes en terminale générale qui ont obtenu leur baccalauréat. Alors, on est sur des taux qui sont un petit peu en dessous de la moyenne nationale, mais rapporté au profil des jeunes, c'est vraiment des beaux succès, et c'est des beaux succès humains. Et quand le bac n'est pas possible, on travaille beaucoup à ce que le jeune, finalement, ne soit pas fâché avec l'école, et pas comme ça avait pu arriver précédemment, parce qu'ils ont eu l'impression qu'il y a eu un malentendu avec l'école.
Eh bien, on va faire un petit tour des prénoms et des âges, s'il vous plaît. Okay.
Moi, c'est Noémie et j'ai 17 ans.
Et moi, c'est Suzanne et j'ai 17 ans aussi.
Moi, c'est Justine, j'ai 21 ans.
Vous avez 21 ans, ça veut dire qu'il y a eu quelques années en dehors du lycée ?
Tout à fait. Bah, j'ai passé 5 ans en dehors de toute structure scolaire, en fait. Pour moi, avant, faire mes devoirs, tout ça, travailler dans un cadre scolaire, c'était un peu une corvée. Et aujourd'hui, c'est vraiment quelque chose auquel je prends plaisir. Je suis vraiment beaucoup plus sereine.
C'est lié à quoi, alors, à votre avis, c'est pas la baguette magique non plus, quoi. Ça reste un lycée.
Oui,
qu'est-ce qui fait que ça change autant ?
Moi, je sais que déjà, dans les lycées, entre guillemets, normaux, je me sentais énormément jugée, alors que là, franchement, on est un peu toutes dans le même cas, et qu'on puisse en parler sans être jugée, puis même, pareil, les devoirs... Les profs, ils sont super à l'aise avec ça. Enfin, si, par exemple, on n'arrive pas à faire quelque chose, eh ben, ils vont venir nous aider.
On est vraiment considérés comme des personnes à part entière et pas juste comme un élève avec des notes, quoi. Et ça, c'est agréable.
Vous diriez que vous avez repris confiance ou que vous êtes en train de reprendre confiance ?
C'est un grand mot, mais ça m'a sauvé le micro-lycée.
Ouais, moi aussi.
Enfin, je sais que je ne pourrais pas revenir dans un lycée normal, je ne peux plus, là. Je suis intégrée là et enfin, je me sens vraiment bien, quoi.
Et ce serait passé quoi sans le micro-lycée pour toi, tu penses ?
Non, moi, je sais que je ne serais plus là.
T'es même. Vous seriez plus là dans...
Bah, en fait, avant le micro-lycée, j'étais... Je suis partie un peu en live. J'ai fait de l'abus de substance énormément, la drogue, tout ça. Et c'était un enfer. Et donc, j'ai entrepris un gros travail de guérison qui a pris beaucoup de temps. Et le micro-lycée en a fait partie.
Pour mon cas personnel, bah, c'était l'année dernière quand j'étais déscolarisée. Je faisais rien de mes journées. Le lendemain, je savais même pas si j'allais être vivante. Enfin, honnêtement, c'est super compliqué de se dire, bah, tu fais rien de tes journées, tu te dis, bah, ça sert à rien, t'auras pas de futur. Enfin,
tout est fini.
Tout est fini, quoi.
Donc, c'est vraiment un raccrochage à la vie en général.
Ouais, ouais. Oui, ah, oui.
C'est pas que pour les études. Non, genre, oui. C'est vraiment, c'est comme un pansement sur le cœur, en fait. C'est vraiment, c'est fort.
À Amiens, il existe aussi un micro-collège pour les élèves plus jeunes, en décrochage plus précoce. C'est une structure plus récente aussi, et nous allons y passer l'après-midi. Donc c'est le même principe, hein, c'est dans un collège classique, et quelques salles sont réservées au micro-collège. Donc là, on va traverser la cour, et on va aller rejoindre la coordinatrice du micro-collège.
Bonjour.
Très bien, bienvenue.
Merci, ça va et vous?
Oui, ça va.
Vous êtes déjà installé?
Oui.
Ah, trop bien.
Alors, vous faites le secrétariat, ça vous va? Comme ça, vous êtes à fond dans les discussions.
Madame Croiset, vous pouvez juste nous expliquer ce qui va se passer là?
Nous allons faire le conseil coopératif de la classe, donc c'est une instance hebdomadaire donc, dans laquelle les élèves se réunissent tous ensemble pour évoquer la vue de la classe. C'est une instance de discussion, d'échange, de régulation et de prise de décision.
Moi, c'était juste en fait, je voulais parler du plan de classe parce que moi en ce moment ça me gêne beaucoup.
Bah, je suis d'accord avec Zélie. En fait, ce qui m'énerve le plus, c'est que tout le monde change tout le temps de place. On n'a jamais les vraies places initiales. Voilà.
Est-ce que vous voulez bien commencer par un petit tour des prénoms?
Okay. Zélie,
Max,
Charlie,
Emma,
Roman,
Ezra.
Donc vous êtes tous en troisième?
Oui.
Moi, je reparlerai bien avec vous de ce conseil coopératif qu'on vient de vivre. Donc, un conseil coopératif, c'est toutes les semaines, vous prenez les décisions, en fait. On ne les prend pas pour vous.
Pour avoir un meilleur bien-être, on va dire, dans la classe, on choisit tous quelque chose, une décision.
En fait, juste, on se sent plus écouté, en fait. On a le choix, le droit. J'ai jamais vu un problème au micro sans solution.
Alors, j'ai cru entendre que vous tutoyez les profs. J'ai entendu Emma, tu.
Oui.
Alors que moi, je lui ai dit Madame Croiset, vous.
On ne prend pas ça du style c'est nos potes, on fait ce qu'on veut avec, ça reste quand même nos profs et ça reste quand même des adultes.
Je trouve que justement, on respecte plus nos profs comme ça parce qu'on se tutoie, mais le respect, il est là. S'il n'est pas là, vous nous vous voyez et c'est tout en fait.
Dans leur vision des choses, on n'est pas juste des simples élèves, qui viennent et qui sont là que pour travailler ou un truc du genre, quoi. Ils sont là que pour enseigner. Ils ont une vraie relation avec nous et puis on compte pour eux, hein, en fait, entre guillemets, je dirais.
On a un petit truc en plus, comme dans le film.
Est-ce que vous diriez que vous n'avez plus peur, maintenant?
Oh non, c'est loin d'être fini.
Qu'est-ce qui te fait encore peur, toi?
Bah, les autres.
Bah, franchement, moi, ça va beaucoup mieux. Bah déjà, vu que je suis là depuis l'année dernière, et quand je suis entrée, bah, j'avais très très peur que tout recommence, en fait, parce que je me suis harcelée pendant près de 7 ans, donc c'est énorme. Mais quand je suis arrivée, je me suis dit, ouais, mais en fait, c'est beaucoup mieux ici. Personne ne m'embête, même je me suis fait des amis. C'était la première fois que je me faisais des amis.
Bonjour.
Alors Philippe Delignière, coordonnateur des micro-lycées et des micro-collèges ici dans l'Académie d'Amiens et par extension en travaillant avec Lille sur ces structures.
Donc le micro-lycée d'Amiens a 10 ans, donc ça fait déjà un petit moment, vous avez pas mal de recul, le micro-collège un peu plus récent. Est-ce que vous avez l'impression que ça répond et de plus en plus à un besoin ?
Oui. Aujourd'hui, on est sur des profils beaucoup plus divers, avec ces jeunes qui sont de plus en plus impactés par des troubles scolaires anxieux, divers et variés. Ils sont le révélateur d'une évolution globale de notre société qui est extrêmement anxiogène. Tous ces phénomènes ont pris une ampleur nouvelle avec le Covid, l'après-Covid, si vous voulez. Ça a été un révélateur. Il est bien évident que l'élève ne doit plus être pris comme un élément qui arrive à 8 heures, qui est un élève apprenant, qui s'assoit, qui écoute, qui est studieux. C'est quelque chose qui appartient à une image d'Épinal. L'élève, le jeune, il arrive le matin avec son sac à dos, hein, et son sac à dos, il est plus ou moins lourd en fonction des situations. Et nous, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut bien qu'on trouve un moyen de l'inscrire dans une dynamique éducative.
C'est un devoir, vous diriez, de l'éducation nationale ?
Mais bien sûr. C'est l'image hein, du parcours de vie, c'est-à-dire que vous avez des gens qui ont des parcours linéaires, extraordinaires, bah, tant mieux, hein, ils ont une sorte de destin tout tracé, ça y semble. Puis d'autres, il faut faire des lacets, hein, c'est comme la montagne, hein. Il faut faire des détours, etc. Donc c'est le droit au détour, quoi, en fait. Il faut que l'école se détende un peu. Quand je dis l'école au sens noble du terme, quoi. Hein.
Donc le maître mot pour leur bien-être, c'est s'adapter.
S'adapter jusqu'à une certaine limite. Parce qu'il y a un enjeu quand même, c'est qu'il faut refaire société. Si on s'adapte trop, si on parcellise trop, on ne répond plus non plus à une de nos missions, qui est l'école, qui est de former des futurs citoyens.
Ce micro-collège et ce micro-lycée, dans lesquels s'est rendue Cécile Bidot, font partie des structures de retour à l'école développées par l'Éducation nationale. Autre pilier de l'insertion des jeunes, les écoles de la deuxième chance, destinées aux 16-25 ans. Le réseau, financé par l'État, les collectivités et les entreprises, est composé de 147 écoles qui accompagnent les stagiaires vers un projet professionnel. Nous partons maintenant dans l'école de la deuxième chance des Hauts-de-Seine. Ce matin, exceptionnellement, les jeunes ont rendez-vous dans un gymnase de Colombes pour une séance sportive animée par des champions d'arts martiaux. Cécile Bidot a tendu son micro au milieu des sacs de boxe.
Interception sur France Inter.
Ok, je vous explique. On va travailler sur un jeu de réflexion et de solidarité. Pendant qu'il y en a trois d'entre vous qui vont faire la chaise,
comme ça,
les autres vont faire des sprawls. Tout le monde sait ce que c'est un sprawl ?
Non.
Là, et je me relève comme ça. Là, et je me relève. On va leur poser des questions. Tant qu'ils répondent pas aux questions, votre collaborateur va continuer à faire des sprawls. D'accord ? Donc c'est-à-dire qu'il va falloir réfléchir vite pour le libérer de sa torture, en sachant que vous serez aussi en situation de torture. Est-ce que c'est clair pour tout le monde ? Première question. 3 x 8 moins 2. 22. Ok, vous changez. Ça fait 1-0 pour eux. Ça y est, on stop. Stop, ça y est, stop. Vous changez. Quelqu'un d'autre, 1-0. Allez, c'est parti. Concentre-toi sur tes pompes, tricheur, là. Qu'est-ce que tu fais, là ? Pompe, dépêche-toi.
Et Rachid, vous laissez rien passer. Hein. S'il y a un tricheur, vous le mettez en fond.
Oui, il faut respecter les règles. Il faut montrer que quand tu triches, il y a des conséquences. Sinon, c'est pas marrant. Mais ils s'amusent quand même. Rachid Mekloutchi, ADN Box, enfin ancien combattant MMA et aujourd'hui boxeur professionnel en boxe anglaise. Quand on est coach de boxe, on est un petit peu dur parce que justement on essaie de faire appliquer certaines règles. Déjà on a un groupe à gérer. La première règle c'est la ponctualité et puis après c'est respecter les choses qui sont en place, respecter les individus qu'on a en face de nous, respecter les consignes, être capable d'être en position d'écoute, en situation d'écoute et être capable d'accepter les remontrances. Et tout ça c'est effectivement des choses qu'on retrouve dans le sport et notamment dans les sports de combat. Et si on est capable de l'appliquer dans le sport de combat, on est capable de l'appliquer dans la vie au quotidien et dans un univers professionnel.
Je crois qu'ils vous attendent.
Oui, on va y aller. Merci beaucoup.
Merci à vous.
On se met en place. C'est parti.
Cours.
Allez, on chaise, c'est parti.
Chaise.
On y va. Chaise, voilà. On est pas si malin, les morts, les vélas.
C'est trop dur.
Les vélas, pas tout là.
Ça, c'est menuit.
Comment ça va là?
Bah ça se passe bien, franchement. Je pensais pas que j'allais aimer, en toute franchise. Il faut se donner de la volonté. En fait, il faut que les autres aussi te donnent de la volonté. Parce que par exemple, moi, dans mon cas, je sais que je fais pas de sport. J'en suis témoin. Mais moi, je pense que ça peut me faire du bien. Parce que forcément, j'ai peut-être des émotions qui veulent se libérer. Du coup, là, je les libère en cet instant-là.
Vous aviez l'impression d'être en échec?
Oui. J'en ai fait même une petite dépression parce que je pensais que je perdais tous mes moyens. Je pensais que, genre, que je valais un peu rien, que j'étais là sans être là, que j'étais nulle à tout. Mais franchement, les gens m'ont aidé, je me suis remis en question, les gens m'ont aidé à me remettre en question. Et je me suis dit, bah, ah, Fatou, c'est pas que t'es en échec, c'est que ça te plaisait pas et t'as arrêté. Du coup, tu te sens en faiblesse. Je suis là depuis septembre et je recommence à me rediriger vers ce que j'aime.
Et ce sera quoi alors?
Moi, je serai auxiliaire de périculture. Là, je sais que là, c'est dans le métier que je veux faire. C'est un truc vraiment qui vient de mon cœur et que je sais que j'ai envie de le faire. Du coup, je me donne les moyens et la force de le faire.
Christophe Dartois, je suis directeur de l'école de la deuxième chance pour les Hauts-de-Seine. Alors l'état d'esprit de l'école de la deuxième chance, c'est déjà l'accueil inconditionnel du jeune. C'est un moment réellement qui leur est salvateur en certaines circonstances pour permettre de découvrir qu'est-ce que le monde de l'entreprise, qu'est-ce que la société, quelles sont les attentes et les attendus. On va retravailler l'ensemble des matières et des disciplines nécessaires pour leur intégration à la vie active, mais également à la société. Donc on va travailler sur l'outil numérique, sur les savoir-être, sur la citoyenneté, sur énormément de choses qui vont leur permettre de vraiment d'acquérir tous ces savoir-être, mais aussi découvrir qui ils sont, quelles sont leurs valeurs profondes, quelles sont leurs compétences, de façon à définir un projet qui soit en lien avec leurs appétences.
Et le monde de l'entreprise, c'est parfois un sport de combat aussi.
Oui, tous les jours, c'est un sport de combat. Tous les jours, on doit être dans l'analyse et dans la mise en œuvre. Tous les jours, on doit prendre sur soi et on doit anticiper les situations, comme en sport, comme en boxe. On doit répondre à des situations, on doit se protéger d'une certaine manière, comme en boxe, où on doit monter les mains et réussir à travailler d'abord sur la notion de défense avant de travailler sur la notion d'attaque. On doit être dans une stratégie. C'est une stratégie exactement comme le monde de l'entreprise, exactement comme la société. Et c'est des épreuves. Et savoir les surmonter, bah c'est aussi ce qu'on a envie de transmettre aujourd'hui.
Moi, je kiffe. Moi. Je kiffe me dépenser. Quand je suis essoufflé, je suis fatigué. Je kiffe ça.
Qu'est-ce que ça vous apporte?
Ça enlève la mauvaise énergie. On a toujours de la mauvaise énergie. Toute la haine qu'on a pour éviter de taper sur les gens. Tu viens ici, tu tapes sur les sacs, tout va mieux.
Je peux vous demander votre prénom, votre âge?
Amine Edagi, j'ai 18 ans.
C'est quoi votre histoire à vous? Vous êtes un peu sorti du système?
En fait, j'ai lâché l'école depuis la seconde. Je peux toujours respecter les règles, mais de toute façon, j'aime pas surtout les règles. Ah si, si, sors pas ton téléphone, non, non. Laisse-moi faire ce que je veux. Et c'est ça, ça m'a sorti du système scolaire. Mais là, j'ai retrouvé un cadre, ça fait plaisir. Parce que c'est pas comme l'école, ça n'a rien à voir avec l'école même. C'est... Certes, t'es encadré, mais tout tient sur toi. Si tu fais pas ce qu'on te demande, c'est toi, c'est bien fait pour toi.
Vous croyez en vous aujourd'hui?
Ouais, je crois en moi. Je crois en moi. Je me suis donné une deuxième chance. Alors que j'avais même pas utilisé la première.
À l'école, j'étais un cancre, c'est ce que ces bâtards pensaient. Ils m'ont tous fait croire que j'avais le foutu crâne à l'envers. J'avais pas d'argent, mais qu'ils portaient tous des marques. Et moi, je portais les sapes oranges et mauves offertes par ma grand-mère. Je les ai rendus faux, comment espérer qu'ils m'aiment? J'étais ce casse-couille du fond de la classe trop typique. Au fond, c'est grâce à eux que je finirai haut la main. Pas obtenir ces deux masters en droit et sciences politiques. Dieu merci, j'ai pris la plume, j'ai connu la musique. J'ai toujours fait ce que j'aime, ouais, quitte à rester en ordre. Aujourd'hui, j'ai la putain de chance d'avoir ce public, mon arrêt est imprévisible, mais ils suivent ta parole.
Pour bien comprendre les profils de ces jeunes décrocheurs et surtout comment les raccrocher, j'ai rendez-vous aujourd'hui avec Juliette Volet. Elle est maîtresse de conférences en sociologie à l'Université de Bordeaux. Elle a travaillé sur ces sujets pendant plusieurs années. Bonjour.
Bonjour.
Je vous suis.
Ouais, vous me suivez? Là, on est sur le campus de la Victoire, qui abrite
les sciences sociales, sciences humaines, sociologie, psychologie, sciences de l'éducation. Donc Juliette Volet, maîtresse de conférences en sociologie à l'Université de Bordeaux et au Centre Émile Durkheim.
D'abord, est-ce qu'on peut définir les termes ? C'est quoi un élève décrocheur, un jeune décrocheur ?
Oui, un jeune décrocheur, c'est un jeune qui quitte le système de formation sans avoir obtenu de diplôme. Ce terme de décrochage, il peut induire une espèce de responsabilisation du jeune. Il décroche, c'est de sa faute, voilà, et puis il peut y avoir cette tendance à faire un amalgame entre décrochage et délinquance avec cette idée qu'un jeune qui n'est pas à l'école est forcément un jeune à la dérive qui vient tenir les murs des cités. Donc il faut quand même être vigilant avec l'emploi de ce terme-là. Après, moi, je l'aime beaucoup personnellement, ce terme, parce que parler de décrochage scolaire, c'est aussi pouvoir penser le raccrochage scolaire. Donc quitter cette idée qu'il y a un caractère inéluctable à la sortie scolaire.
Alors, qu'est-ce qui fait qu'un jeune va pouvoir raccrocher ? C'est quoi cette trajectoire entre le décrochage et le raccrochage ?
Alors, quand ils quittent l'école, ils en gardent des souvenirs douloureux. Et donc, la phase qui suit immédiatement leur décrochage scolaire, ils la décrivent comme un temps de satisfaction, comme un temps d'apaisement. Très souvent, ils disent « ça y est, c'est fini ». Et donc, à ce moment-là, quand on leur pose la question, ils disent « bon voilà, tu quittes l'école, qu'est-ce que tu fais ?» La réponse unanime, c'est « rien, je ne fais rien ». Si vous voulez, c'est un temps mort au sens sportif du terme. C'est-à-dire que voilà, on fait une pause, on reprend son souffle avant de revenir dans la partie. Cette première phase, elle ne va pas durer très longtemps, donc quelques semaines, quelques mois. Très vite, les sentiments d'ennui, les sentiments d'enfermement dans le quotidien, de monotonie vont apparaître. Et là, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont se diriger vers le marché du travail. Donc les emplois les plus précaires, du point de vue du type de contrat, du point de vue du contenu de l'expérience professionnelle. Ils décrivent des emplois pénibles, ils n'ont absolument aucun plaisir dans les tâches qu'ils effectuent. Et ce qu'ils disent souvent, c'est qu'ils ont l'impression de stagner. C'est comme ça, du coup, progressivement, que vient émerger ce désir de retour à l'école. Mais ça prend du temps. On est en moyenne sur une période de latence qui dure 24 mois. Une fois qu'ils élaborent ce souhait de retour en formation, il faut encore trouver un dispositif qui permet ce raccrochage. Et il faut ensuite être sélectionné, passer les épreuves de sélection pour rejoindre effectivement le dispositif et pour raccrocher.
Donc, finalement, c'est vrai que ce parcours qui semble presque un parcours du combattant que vous décrivez, l'idéal est d'agir avant, en fait, pour éviter le décrochage.
Tout à fait. Cette période de latence, elle est longue. Elle est longue parce que l'expérience scolaire antérieure a été douloureuse. La principale chose à faire pour lutter contre le décrochage, c'est d'empêcher l'émergence de tels sentiments, d'une telle rancœur, d'une telle douleur scolaire. Se prémunir du décrochage, c'est, ça avait été une ambition, mais créer une école bienveillante. Bienveillante dans tous ses aspects.
Depuis 10 ans, le retour à la formation est un droit inscrit dans la loi pour tous les 16-25 ans sortis du système scolaire. En 2005 a été créé l'EPID, établissement pour l'insertion dans l'emploi, à destination de jeunes qui sont parfois en rupture avec la société. C'est l'armée qui est à l'origine de ces structures, dont le cadre est très strict, uniforme obligatoire, internat, marche au pas. Les jeunes y passent 10 mois en moyenne. Ils sont volontaires et touchent une allocation de 500 euros par mois. Au programme, prise en charge sociale, remise à niveau scolaire, recherche d'emploi, de formation et de stage. Cécile Bidot s'est rendue à l'EPID de Lyon-Mézieux et a suivi, dès 6 heures du matin, le réveil et la revue des chambres de ces volontaires à l'insertion.
Interception, le magazine de reportage de la rédaction.
Pour la chambre, garde à vous. Volontaire pour l'insertion, monsieur Bonin, chambre numéro 4006, prête pour la revue, à votre disposition, monsieur.
Repos. C'est pas carré, les garçons. Les lits, il faut les faire, mais vraiment, les armoires, ça va encore. Faut que ce soit carré, les garçons, le matin. Quand c'est carré le matin, c'est carré dans la tête pour la journée. D'accord ? Quand c'est carré le matin, c'est...
carré dans la tête.
Voilà. Donc, vous me faites les choses comme il faut. Vous nettoyez le sol. Allez, bonne journée, les gars. Merci.
Donc là, il est 8h moins le quart. Les jeunes vont se rassembler par section, puisqu'ici, on ne parle pas de classe, mais de section. Donc chaque section va se rassembler en rang et marcher au pas cadencé jusqu'à la place d'armes. Tous les matins à 8h, il y a la levée des drapeaux. Et aujourd'hui, comme on est vendredi, c'est une journée un petit peu particulière. C'est ce qu'on appelle les grandes couleurs. Donc il y aura également la Marseillaise qui sera chantée et... les jeunes qui ont réalisé des choses un peu exceptionnelles cette semaine seront mises en valeur.
Place. Pour ensemble. Garde. Repos. Comme vous pouvez le voir, nous avons la visite de France Inter, à qui nous souhaitons la bienvenue. Cependant, à l'appel de votre nom, vous répondez présent et vous sortez des rangs. Bonin. Granger, Agnel, dépêchez-vous!
À gauche, gauche. Direction le gymnase, en pas, sans cadence, marche. Allez, on fait un... On avance, monsieur.
Allez, se mettre à côté.
Ça va bien. C'est vendredi matin, c'est le plus beau jour de la semaine. Je compte sur vous pour une belle Marseillaise.
Monsieur.
Ok. Forte et articulée. Ça va résonner dans ce gymnase, ça va être super. Ok ? Allez.
Centripide de Lyon, mes yeux, à mon commandement, repos. Garde à vous !
Allons, enfants de la patrie,
le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, l'étendard semblant.
Oui, je m'appelle Benoît Métivier, je suis coordonnateur éducatif au Centre Épide de Lyon-Mézieux et en partie militaire oui, pendant 16 ans, j'étais officier de l'armée de terre. Tout ça, c'est beaucoup de symboliques, mais ce sont des symboliques dans lesquelles on se retrouve ensemble et individuellement. C'est ça qui est important.
Alors, pour autant, le but n'est pas d'en faire des soldats.
Non.
Qu'est-ce que ça peut leur apporter, tout ça?
Pour beaucoup, c'est structurant. Ils ont des parcours de vie, pour certains, que je ne souhaiterais pas mon pire ennemi. Ça leur apporte... un second souffle. Nous sommes d'inspiration militaire, mais cette inspiration, il y a un moment, il faut bien la faire ressortir, il faut bien l'expirer. Cette respiration-là, eh bien, c'est précisément ce qui va structurer leur envie, leur confiance en soi, le fait de retrouver des repères, une famille pour certains. En tout cas, ils savent qu'il y a un endroit où ils ont été considérés pour qui ils étaient, avec respect, et pour autant, ils faisaient partie d'un ensemble.
Rien que là, j'ai vu 2-3 corrections de posture. Ça aussi, c'est important, se tenir droit, les deux pieds dans le sol.
Oui, sortir les mains des poches. Alors, on ne leur demande pas d'être au garde à vous quand ils passent le portail. Hein, ils vivent leur vie. Mais se redresser, ne pas regarder le sol, c'est aussi se tenir droit dans la vie, regarder vers l'avenir. C'est une dynamique que l'on donne à son corps. Lorsque le corps parle, il dit quelque chose de vous. Donc, courber les chines, baisser la tête, on ne fait pas attention à vous. Hein. Nous, ce que nous leur demandons, c'est précisément d'avoir l'attitude qui va faire en sorte que le jugement que l'on porte sur eux est forcément un a priori positif, un préjugé positif. Et donc, à candidature équivalente dans une entreprise, le choix il va se faire sur celui qui sait se présenter, qui sait parler, qui sait être à l'heure, qui sait être respectueux, qui sait écouter. C'est un vrai pari, hein. C'est un vrai pari. Mais ils ont des ressources fantastiques. Ces jeunes, ils ont un courage qui en remontrerait à bien des personnes, je crois.
Bonjour.
déranger.
Voilà, on se fait exploiter par monsieur Michivier.
Là, vous devez faire le ménage de la chambre,
oui.
C'est ça ?
Et voilà. Moi, je m'appelle Norine, j'ai 22 ans. J'ai eu un parcours chaotique. J'ai quitté l'école à 15 ans. J'étais un petit peu perdue professionnellement. Dès que je commençais une expérience professionnelle, il y avait toujours un problème. J'arrivais pas à tenir un travail et tout. Et là, en fait, on nous donne vraiment les clés, les codes pour pouvoir y arriver, quoi. Moi, franchement, en 4 mois, j'ai eu l'impression de grandir. Ça me permet de me canaliser et surtout de me cadrer, quoi.
Ce qui n'était pas le cas avant.
Non, parce qu'en fait, avant, j'avais vraiment une vie où je pouvais faire ce que je veux, quand je voulais. J'avais personne, en fait, qui me disait quoi que ce soit. Par exemple, je mangeais dans mon salon sur le canapé. Si j'avais pas envie de faire la vaisselle, je la faisais pas. Il y avait personne qui était derrière moi. Et là, en fait, le fait qu'il y ait le cadre, ça me fait beaucoup de bien, vraiment. Et ça me permet de structurer mon parcours. Et vraiment, c'est hyper bien.
Pas trop contraignant, le côté, effectivement, militaire
En fait, de la contrainte, il y en a partout. Hein. C'est peut-être un petit peu des fois fatigant, un petit peu lourd, parce que des fois, tout le temps, le rassemblement et tout, mais en fait, on est volontaire. Hein. Je veux dire, ils ne nous enferment pas à l'épide. Si on a envie de partir parce qu'on trouve ça, on trouve que c'est pénible et tout, on peut prendre le portail, leur dire « Bon, écoutez, moi, j'ai plus envie de travailler avec vous. » Personne n'est enfermé, quoi. On est tous ici parce qu'on a choisi et parce qu'on a décidé.
S'il vous plaît, vous pouvez vous asseoir et vous connecter avec les codes. D'accord ? On va du coup faire les inscriptions France Travail comme on avait dit ce matin. Donc vous vous connectez avec, vous rappelez le nom d'utilisateur et le mot de passe que je vous ai donné, que vous avez créé ce matin. D'accord ? C'est OK pour tout le monde ? Vous avez trouvé ?
On va l'idée et continuer.
C'est tout bon là comme j'ai écrit ou...
Alors qu'est-ce que vous avez écrit ?
Travailler autour de mon projet professionnel, travailler le code et travailler sur les règles d'entreprise.
Eh ben parfait.
Là c'est bon, du coup, je peux
tout bon
valider.
Et vous continuez à finaliser votre inscription, d'accord ?
Ouais,
votre CV.
Ok. Là c'est en train de valider.
Et ben voilà.
Je sais pas si c'est d'aller.
D'accord ? C'est bon ? J'arrive.
J'ai pas mon numéro de sécurité sociale.
Alors, quand vous vous inscrivez à France
Travail. Bonjour, je m'appelle Yanis, j'ai 18 ans, je suis actuellement à l'insertion à l'EPID de Lyon-Mézieux. Donc, dans le niveau scolaire, j'ai arrêté, je me sentais pas à l'école, je me sentais pas bien, donc j'ai arrêté très, très tôt, fin de ma troisième. Donc après, quand on n'a pas de cadre, avec certains soucis de famille, on n'est pas chez soi, il n'y a personne pour nous mettre dans le droit chemin, nous montrer ce qui est bon et ce qui n'est pas bon, et ben c'est parti un peu en folie.
C'est-à-dire ?
Dans la délinquance, l'illégal, les bêtises, quoi.
Donc vous avez été condamné ?
J'ai fait 22 mois de détention au centre de Lyon-Mézieux, et après, je suis venu à l'EPID, donc l'EPID m'a donné ma chance et c'est une bonne, c'est un bon chemin pour s'en sortir.
Parce que vous étiez très jeune quand vous êtes allé en prison, vous étiez mineur.
Mmh. 16 ans.
Ça a dû être un sacré choc alors d'arriver à l'EPID avec toutes ces règles militaires. Comment vous l'avez vécu ça ?
Les 3 premières semaines, j'étais pas dans les normes, le cadre me plaisait pas. Quand on se remet en question, quand on donne une parole, on s'engage, on va se taire, même si c'est chiant, même si c'est embêtant, même si c'est désagréable, le réveil à 6 heures, toutes ces choses embêtantes, c'est pas grave, j'ai envie de m'en tirer, donc je me lève.
Qu'est-ce que vous avez vu changer en vous ?
Ma manière de réfléchir, la manière de parler, j'étais quelqu'un de très vulgaire avant. La manière de s'exprimer aussi, je disais tout ce qui me passait par la tête. Maintenant, je sais que, entre guillemets, je dois mettre un peu plus de filtre. Et on apprend.
Alors justement, la suite, vous la voyez comment ?
Je me vois dehors avec un travail, auprès de ma mère, comme un citoyen moderne.
Moderne ou modèle ?
Modèle même. Je dirais modèle.
Voilà.
Donc à côté de tous ces dispositifs publics, il y a aussi le tissu associatif local qui se mobilise pour raccrocher ces jeunes. À Béthune, où nous sommes ce matin, l'association L'Envol passe par la pratique artistique. Ça fait presque 10 ans que ça dure. C'est le dispositif classe départ. Ces jeunes décrocheurs sont en service civique pendant quelques mois. Aujourd'hui, c'est la répétition d'un spectacle qu'ils donneront demain en région parisienne. On va aller écouter et regarder tout ça.
Ok, donc on voit à partir du pas de Donna. C'est 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8. Ouvre les mains, 3, 4, 5, 6, plié. Et 1, 2, 3, 4. Hop.
Je m'appelle Perrine Fauvet et je suis directrice des programmes d'art et transformation sociale ici à L'Envol. Et je suis aussi comédienne et metteuse en scène. Nous, on est des artistes et on est des artistes parce que l'art, elle nous a sauvé la vie. Elle, comme si c'était une dame, c'est drôle. Et finalement, on a créé Classe Départ en se disant « Ce dont j'aurais eu besoin quand j'avais 16-17 ans, finalement, je vais le créer pour pouvoir le donner à des jeunes qui vont être dans le besoin aujourd'hui. » Et parce que l'art, c'est un moyen de se retrouver, de se redécouvrir, de reprendre confiance en soi, d'accepter le regard porté sur soi et d'accepter de porter le regard sur l'autre, d'apprendre à communiquer différemment, d'être en accord avec soi et avec les autres, et peut-être un peu plus avec la société.
On dit souvent que ces jeunes, ce sont des invisibles dans la société. Parfois, ils sont complètement sous les radars. Le fait de les mettre sur une scène, là, ça met la lumière. C'est vraiment symbolique, plus que symbolique.
Je suis convaincue, et ici, on est tous convaincus, que de remettre en lumière tout le monde, eh bien, en fait, c'est aussi accepter et prendre conscience. On n'a pas à avoir honte de qui on est. On peut se sentir respecter. Et ça, pour moi, c'est un des points hyper importants de dire on a le droit d'avoir une vie de merde. On a le droit de se dire j'ai pas eu de chance. Par contre, on n'a pas le droit d'abandonner. Et ce qu'on doit faire, c'est se battre. Mais pour se battre, parfois, il faut des outils. Et nous, ce qu'on fait par l'art, c'est qu'on leur propose de nouveaux outils pour pouvoir vivre différemment l'avenir.
On dira toujours de faire au maximum, de foncer dans le décor.
De garder le sourire, monter sur le podium, être encore un peu plus fort.
Mais tu vois, il y a des jours avec et des jours sans. Comment savoir si tu galères et que tu avances? Non, comment savoir si tu galères pas et que tu avances?
Bon, bravo, c'est super.
Merci. Un peu galéré, parce que là c'était la première fois que j'utilisais le costume, donc j'avais un peu de mal, mais c'est cool. Bah, donc moi c'est Aaron Laversin, j'ai 24 ans, et bah, niveau parcours c'est un peu catastrophique. Quoi. J'ai arrêté l'école en 2019 en essayant une deuxième terminale littéraire, n'ayant pas eu mon bac, mais je n'y arrivais pas, la moquerie, l'exclusion. C'était vraiment la concentration, le fait d'être rejeté, d'être tout le temps seul, même les profs s'y mettaient. Donc au bout d'un moment, j'ai juste abandonné et je me suis dit que c'était pas fait pour moi. Quoi.
Alors que quand on vous voit là sur scène, vous savez apprendre un texte, une chanson, une chorégraphie.
Ouais.
Ça vous fait du bien?
Ouais, beaucoup. Ça me fait beaucoup de bien parce que je me sens capable. J'ai l'impression de vraiment réussir à faire quelque chose de ma vie déjà tout court. Le fait aussi de réussir à ressortir dehors, parce que je ne sortais plus du tout de chez moi. Même pour faire des courses, je n'y arrivais pas. Et là, on a fait la semaine dernière un spectacle devant 150 personnes en chantant. Ben, ça s'est super bien passé et j'en étais fier. Honnêtement, j'en étais fier de l'avoir réussi, de ne pas avoir stressé, d'avoir gardé cette confiance. Chose que je pensais avoir perdue avant.
Vous avez l'impression d'être sorti de votre coquille?
Oui. Je suis toujours en train d'en sortir. De toute façon, on a 7 mois pour. Mais je vois que là, en un mois, j'ai monté de grosses marches, on va dire.
Quand vous regardez celui que vous étiez il y a encore un mois et celui que vous êtes aujourd'hui, qu'est-ce que vous vous dites?
Il y a un gros changement. Parfois, je ne me reconnais même pas et j'ai l'impression de me dire est-ce que c'était vraiment moi, ou même là, qui je suis aujourd'hui,
Et en fait, non, c'est vraiment moi. Alors qu'avant, c'est vrai que je me mettais souvent un masque, et là, non, je le sens que je suis au naturel. Donc ça fait du bien. C'est vraiment le point de départ pour pouvoir se lancer dans la vie, pour pouvoir dépasser ses limites, surtout. C'est surtout ça.
Merci beaucoup.
Mais il n'y a aucun souci, merci à vous.
Raccrocher les décrocheurs, c'était un reportage de Cécile Bidot. À la prise de son, Corentin Bailly et Benjamin Reyes. À la réalisation, Gaëtan Colli. Attaché de production, Martine Messonnier. À la documentation, Anne-Lise Signoret. Mixage, Antoine Viossa. Pour réécouter cette émission, les précédentes ou les suivantes, n'hésitez pas à vous abonner au podcast d'Interception sur l'appli Radio France.